Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de G comme Odéon, une émission pour les résistants, ceux qui persistent et signent, et pensent que l'art, le spectacle vivant, la musique et les créations de tout poil sont des carburants pour les moteurs un peu grippés de notre société. Cette semaine, nous parlerons photographie avec Gaëlle. Nous avons parcouru ensemble l'exposition Marc Riboud au Musée des Confluences. Nous avons échangé avec Thomas Consani, tireur pour le studio Picto. Nous entendrons également la voix du photographe parler de son travail. Guillaume nous propose un focus sur le chanteur Ash Burns qui a sorti il y a peu son nouveau disque Sunset Park avec des concerts à venir dans la région. Et bien entendu, nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. On débute avec toi, Gaëlle, et l'exposition consacrée au photographe Marc Riboud. Nous avons parcouru cette exposition ensemble il y a quelques semaines. Notre émission intitulée « Objectif dans le viseur » datée du 1er mars proposait une visite guidée avec Marianne Rigaud-Roya. Elle est toujours commissaire de l'exposition pour le musée des Confluences. Cette semaine, c'est ton regard, celui de Thomas Consani de Picto et quelques mots de Marc Riboud que nous vous proposons. Ils compléteront cette exposition immanquable pour découvrir ou redécouvrir ce très grand photographe.
Alors sachez que le musée des Confluences organise sa première exposition entièrement dédiée à la photographie. Elle rend hommage à Marc Riboud, un enfant du pays né en 1923 à Saint-Genis-Laval, qui aurait eu donc 100 ans cette année, ce que célèbre l'exposition « Marc Riboud, 100 photographies pour 100 ans ». Pour cette première, le musée offre volontairement un accès direct, facilité et plus contemporain aux photos. Impression à bord perdu, absence de liseré blanc autour des tirages, ni Marie-Louise, ni encadrement. Les formats sont aussi d'une grande diversité. 10 formats différents au total, un défi. Marc Riboud quitte Lyon en 52 pour sillonner le monde. En 55, via le Moyen-Orient et l'Afghanistan, il se rend en Inde, puis gagne la Chine. Après un séjour en URSS en 60, il couvre les indépendances en Afrique noire et en Algérie, puis en 68, effectue des reportages au Sud et Nord Vietnam, où il est l'un des rares photographes à pouvoir entrer. Il couvre aussi mai 68 à Paris et la guerre au Bangladesh en 71. Le parcours de l'exposition s'ouvre sur la route, section mettant en avant le goût du voyage du photographe, notamment en Chine, dont il deviendra un passionné. L'exposition n'est pas chronologique, mais axée sur des résonances entre forme et regard. Cas d'un rapprochement fait entre un cliché du Haut-Beaujolais, enveloppé de brume, avec la cité interdite sous la neige. Chine toujours avec la fameuse photo « Fenêtre d'antiquaire ». L'image donne le sentiment qu'il existe autant de narrations qu'il y a de personnes dans les encadrements de fenêtres. En 65, année de cette photo, les Chinois vendent les bijoux de famille pour se nourrir. Un an plus tard, avec la révolution culturelle, or et bijoux seront remis à l'État sans contrepartie. Marc Riboud a photographié la Chine dans tous ses bouleversements jusqu'à l'explosion de l'économie de marché, incarnée dans une photo prise à Shanghai en 2022 avec un vaste affichage publicitaire urbain. Toujours en 2002, la photo « Le petit lapin » à Shanghai offre un clin d'œil humoristique. Lapin, c'est en fait un sac plastique qui, noué, ressemble à un lapin. Posé sur le socle d'une statue sans statue, le sac plastique joue les sculptures. Hasard heureux de ce zoomorphisme. Ici, la composition cocasse compte plus que le sujet. Marc Riboud, c'est un œil d'une grande liberté sur le monde. Un regard qui mêle rigueur géométrique et poésie à la fois. L'œuvre est immense. Près de 50 000 images. Pour Marc Riboud, 100 photographies pour 100 ans, les photos ont été sélectionnées par les Amis de Marc Riboud, une association créée en 2002 pour la mise en lumière du travail du photographe. Notez que certaines photos sont issues du Musée national des arts asiatiques Guimet, car Catherine Ribou, l'épouse de l'artiste, a fait un important leg en 2019. Or, Musée Guimet et Musée du Confluence suivent une même ligne éditoriale. Le Musée du Confluence se révèle ainsi être un lieu éloquent pour accueillir cette exposition. Écoutons un petit peu Marc Ribou parler de son premier appareil photo.
J'ai commencé à faire des photos quand j'avais 12 ans, 13 ans. Mon père avait un appareil de photo qu'il avait à la guerre de 14-18. Il avait acheté un Leica. Au bout d'un certain temps, il est devenu mon appareil. C'est drôle. Il m'a un peu dit la chose suivante, si tu ne sais pas faire des photos, c'est que tu ne sais pas regarder. Je faisais toujours des choses trop noires ou trop blanches. Mon père n'avait pas le courage et la patience de m'expliquer. Petit à petit, j'ai appris moi-même. J'ai fait les erreurs moi-même. J'ai appris petit à petit une terrible leçon. C'est que la vue n'est pas ce que je pensais. Un appareil, il n'invente pas. Il n'est absolument pas capable de faire une photo. Il faut rendre cet appareil intelligent et savoir que moins il y a de lumière et meilleure seront la photo. C'est quand les conditions sont difficiles, le jour et la nuit, et un peu de jour, un peu de nuit, c'est tout ça qui fait l'intérêt d'un appareil de photo. Et cet appareil de photo, ce n'est pas le hasard, c'est la connaissance de la lumière et qui est le résultat d'une observation constante de la vie qui est juste devant vous, autour de vous. On dit les gens qui ont l'oreille juste, on ne dit pas l'œil juste. Il y a des gens qui ne comprennent rien au visuel. Ça s'apprend. Je ne crois pas au talent, comme je l'ai dit, mais je pense que c'est prédisposition et après le travail. Et répéter, et refaire, comme le pianiste 10 fois par jour, 5 heures par jour. Maintenant, c'est le numérique, c'est presque automatique. On n'a que 3 touches, tout est automatique. Je ne suis pas très bon à l'automatique, mais tout automatique est forcément une moyenne. Et la moyenne est médiocre, c'est le propre de la moyenne. Je pense qu'il faut avoir appris pendant des années. Ces 3 touches que l'on a, la distance, l'ouverture et la vitesse. Les pianistes en ont beaucoup plus à se rappeler, les yeux fermés.
Nous venons d'écouter Marc Ribou parler de son premier appareil photo. Mais comment la carrière de Marc Ribou a-t-elle véritablement commencé ? En 1953, il arrive à Paris. La tour Eiffel est en train d'être peinte. Il obtient sa première publication dans le magazine américain Life pour sa photo du peintre de la tour Eiffel. Cliché insolite qui combine l'humour d'un Buster Keaton avec une composition très construite. Le peintre acrobate défie le vide avec grâce et virtuosité, en toute désinvolture et insouciance car sans filet ni sécurité. Se détachant graphiquement sur un fond urbain évanescent, le peintre semble danser en équilibre, encadré par un fragment triangulaire de la Dame de Fer. Composition très géométrique, typique de Marc Ribou. Le photojournalisme est alors en plein essor. Le peintre de la Tour Eiffel lui vaut son admission, sur l'invitation d'Henri Cartier-Bresson et de Robert Capa, à l'agence Magnum, créée depuis 1947. Fameuse agence qui permet à ses membres d'être maîtres de leur sujet, c'est pourquoi Marc Ribou voyage beaucoup sans idées préconçues, et de rester propriétaire de leurs négatifs. Marc Ribou est un Magnum de 53 à 79, vice-président de Magnum Europe de 59 à 73, puis élu en 75 président de l'agence, dont il démissionne en 79. Marc Riboud n'est pas un photographe de guerre, mais peut faire des photos violentes. Exemple du cliché pris à Hue, au sud Vietnam. La ville entièrement ravagée par les bombes est, pour Marc Riboud, un autre Guernica. La photo offre un saisissant contraste entre une femme à l'élégance toute aristocratique au premier plan et le monde écroulé à l'arrière-plan. Autre photo iconique, la fameuse image de la jeunesse américaine dressée contre la guerre du Vietnam, incarnée par la jeune fille à la fleur, prise en 67 à Washington. Qui ne connaît pas cette jeune fille opposant une fleur à la baïonnette d'un soldat? C'est l'image symbolique de la non-violence. Pourtant, même si aucun des soldats ne regarde la jeune fille, l'impression qu'elle va se faire empaler à fleurs. Lors d'une manifestation pour la paix au Vietnam, Jeanne Rose Casimir, le modèle donc de la photo, a fait surgir cette fleur, un chrysanthème, pour simplement parler d'amour aux soldats, sans provocation, comme une évidence qu'il faut saisir. Selon Marc Riboud, on ne prend pas une photo, c'est la photo qui vous prend. Heureux hasard, car c'est la dernière photo de la planche contact. Marc Riboud parle d'un état de grâce et mesure tout de suite l'impact du cliché. La jeune fille à la fleur lui ouvrira des portes. 2 ans plus tard, il réalisera le dernier portrait de Ho Chi Minh. Un joli scoop. Vous noterez l'humour également saisi au British Museum et au Musée du Prado, ainsi qu'une composition très pensée, rare chez Marc Riboud, pour le nu dans le miroir où la patience avant le clic a été fructueuse. Il a attendu que le chat au premier plan à gauche prenne une pose lascive en écho au nu à droite. Enfin, 100 photos comme l'énonce l'exposition ? Il y en a véritablement 97 en argentique. Les 3 dernières sont de grands tirages numériques rétro-éclairés de 1m20 sur 1m80. Écoutez l'interview du tireur de Marc Riboud, Thomas Consani du laboratoire Picto, avec qui nous avons eu de riches échanges. Thomas Consani tire les photos de Marc Riboud depuis 30 ans. Connaissant très bien le photographe, ses désirs et requêtes en matière de maquillage, soit les étapes de protection ou de surexposition de zone pour modifier le rendu de l'image, il a pu tirer les 97 photos de l'exposition comme si Marc Riboud était à côté de lui, lui glissant à l'oreille des « pas de noir bloqué, pas de blanc, ici un peu plus de détails, là un peu plus de densité ». En nous racontant combien Marc Riboud pouvait rester des heures sur un tirage, Thomas Consani mime dans une grande chorégraphie les étapes du maquillage en passant ou retirant la paume de sa main, tel un sculpteur de la lumière.
Alors on a la chance d'avoir le tireur de Marc Riboud avec nous et je posais la question suivante, vous qui avez donc la connaissance des tirages argentiques avec toute cette densité de noir que Marc Riboud aimait particulièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la deuxième approche qui est proposée au sein de cette exposition avec les 3 grands tirages rétro-éclairés?
Alors c'est sur 2 choses complètement différentes, entre le numérique, parce que ce sont des tirages rétro-éclairés comme vous le dites, donc tirés sur un support translucide, où là c'est plus pour emmener le spectateur vers quelque chose et pas tant pour lui montrer une photo, parce que ces 3 dernières photos, comme vous pouvez le voir, c'est les montagnes de Wangshan, enfin celle juste avant c'est en Inde, c'est, qui s'appelle Darjeeling, et ça c'est le souhait et le choix de la scénographe, c'est de partir dans ces montagnes avec quelque chose de très très clair, de brumeux, où on a vraiment une douceur, une tendresse, et finir par quelque chose de plus clair, de plus doux, alors que tout le reste de l'expo, comme vous pourrez le constater, les noirs sont un petit peu plus prononcés, les blancs sont plus remplis et ce sont des tirages argentiques. C'est vraiment un choix de diversité pour emmener le spectateur vers quelque chose de plus léger vers la fin.
C'est un parti pris, j'imagine aussi, comme il commence par le Marc Riboud très voyageur, c'est vrai que ça nous fait clôturer un peu l'exposition par une envolée, une balade.
Tout à fait, on pourrait même aller un petit peu plus loin. Alors là, j'extrapole, hein, je ne sais pas si ça a été le choix de la scénographe, mais étant donné que ce sont 100 photos pour les 100 ans de Marc, il aurait eu 100 ans, donc il est décédé, on pourrait dire que voilà, c'est le ciel qui emporte Marc, il était grand fan de Chine, c'est sa ville ici à Lyon, donc il est au-dessus de nous, il nous regarde, et il part dans les nuages du Wangshan.
Alors en tant que tireur, on a parlé de la difficulté bien sûr de passer et de tirer encore aujourd'hui de l'argentique. Est-ce que ça pose des problèmes aussi d'un point de vue du format ? C'est-à-dire que quand on agrandit des photographies qui ont été faites il y a quelques dizaines d'années, est-ce que c'est compliqué en fait d'en faire des grands formats par exemple ?
Ah non, pas du tout. Que ce soit un petit format ou un grand format, la seule difficulté, c'est que le maquillage, puisqu'on intervient sur chaque tirage en maquillant, c'est-à-dire éclaircir des noirs en passant sa main entre l'optique et le papier pour justement éclaircir, ou l'inverse, redonner dans des blancs. La seule différence, voilà, c'est la manipulation, puisque le papier sera beaucoup plus grand. Il m'est arrivé pour Marc de faire des tirages de 1m20 sur 1m80, toujours en barité et sans aucune intervention de machine. C'est un challenge supplémentaire parce que évidemment le maquillage et l'intervention est démultiplié qu'un petit tirage.
Alors on voit la diversité des tirages. Vous avez participé à toutes ces images au tirage en fait de la totalité de l'exposition. Comment ça s'est passé?
Alors oui, sur ces 100 photos, en fin de compte, il y en a 97, puisque les trois dernières sont ces fameux tirages numériques en caisson lumineux. Ça, ce n'est pas de mon ressort, parce que je ne fais que du tirage argentique, noir et blanc. C'est un collègue qui a fait ces trois tirages-là, mais pour les 97 autres tirages, ce sont des tirages que j'ai faits ces quatre derniers mois, des tirages donc modernes, postérieurs au décès de Marc. Le respect des desiderata de Marc, il est bien évident inchangeable, et je ne tirerai d'une autre manière. Je dois respecter, comme je tirais pour Marc, de son vivant, et comme mon père le tirait avant, puisque c'est un métier qu'on a de père en fils, et mon père tirait dans les années 60 pour Marc, et moi j'ai pris le relais dans les débuts des années 90. Donc on ne peut pas, en tant que tireur, ne pas respecter les choix, les envies, la personnalité du photographe par rapport au tirage.
Alors justement, quand le photographe n'est plus, comment on reçoit les directives du photographe, hein, puisque on nous l'a dit qu'il y avait certains tirages, notamment qui n'avaient jamais été tirés.
Alors il y en a trois, en fin de compte, que je n'ai jamais tiré. Mais dans l'absolu, je connais tellement Marc par cœur, je connais tellement sa manière de voir et sa manière de parler à travers ses photos, parce qu'une photo parle aussi. Elle n'est pas que visible, elle parle. Il faut savoir l'écouter, la photo. Donc j'ai tellement écouté Marc parler de ses photos et on a tellement travaillé ensemble que maintenant je respecte tout ce qu'il a envie. Vous voyez, je parle de lui au présent, je respecte tout ce qu'il a envie et tout ce qu'il veut dire à travers ses photos et à travers, bien évidemment, le tirage.
J'aimerais qu'on parle d'une photo en particulier, c'est pour ça que je vous ai amené ici. C'est une photographie emblématique, connue du monde entier, la jeune fille à la fleur. Elle est incroyable cette photo, mais elle est toute floue.
Elle est floue et pas floue. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas floue? Oui, d'aucuns diront qu'elle est floue. Elle n'est pas floue parce qu'elle est entre chien et loup. C'est-à-dire que vraiment, avant la tombée de la nuit, c'était à Washington, 1967. Et donc, techniquement, il a fallu surexposer le film. Et quand on surexpose un petit peu, le grain commence à s'éclater. Donc c'est pour ça qu'on a cette sensation de flou. Mais dans l'absolu, est-ce que c'est pas plus joli de l'avoir flou, surtout du côté militaire? Et puis il y a une poésie qui est amenée par Jane Rose, par la jeune fille à la fleur, et ce flou-là, pour moi, alors déjà ne me gêne pas, quelle que soit même la photo, et voilà, ce flou-là amène une rondeur par rapport et aux baïonnettes et à la fleur qu'elle leur présente.
Quelles sont les autres difficultés qu'on rencontre avec le travail de Marc Ribot quand on est tireur, ou facilité au contraire? Qu'est-ce qui fait que c'est agréable encore de tirer des photos de Marc Ribot aujourd'hui?
Plein de choses. Déjà, c'est se replonger dans le monde de Marc. Même si j'ai tiré plusieurs fois, en l'occurrence, La jeune fille à la fleur, ou Le peintre à la tour Eiffel, ou derrière nous, la photo avec Roménie. En fin de compte, se replonger dans les photos de Marc, c'est que vous découvrirez des détails. Et vous voyez, depuis 1993, il y a un tirage qui est derrière nous, qui est à Cuba, où là, j'ai vu un détail que je n'avais jamais vu au niveau des chaînes que l'homme tient de la main gauche. Et c'est ça, se replonger dans les photos de Marc, il n'y a pas de lassitude. C'est toujours un plaisir. Alors déjà parce que ça me permet de voyager aussi. Et ensuite, de comprendre, même des années après, des fois d'autres messages que je n'avais pas forcément vus, que je n'avais pas forcément compris. Et puis il est toujours sur mon épaule en train de me dire, tiens, n'oublie pas d'éclaircir un noir ou de remplir un blanc. Donc je l'entends, c'est mon petit ange gardien qui est là, ou qui des fois une dispute parce que le tirage n'est pas bon, donc je refais le tirage.
On vient d'écouter Thomas Consagny, le tireur de Marc Ribot. L'exposition Marc Ribot, 100 photographies pour 100 ans, est à voir au Musée des Confluences jusqu'au 31 décembre 2023. Plus d'informations sur museedesconfluences.fr.
Guillaume, cette semaine, tu nous proposes un focus sur le chanteur Ash Burns, qui a sorti il y a peu son nouveau disque Sunset Park, avec des concerts à venir, je crois, dans notre région.
Tout à fait. Alors moi, je veux revenir sur la carrière un petit peu de Renaud, donc Ash Burns, qui est natif de Romans-sur-Isère et qui vient de sortir son nouvel album, qui est absolument passionnant, magnifique. Je pense que après, les mots n'ont plus guère de sens, mais je pense que c'est son chef-d'œuvre, je pense, dans sa carrière, parce que finalement, il résume un petit peu tout ce qu'il a fait depuis
une... l'œuvre de la maturité.
Voilà. Oui, mais bon, ça veut pas dire grand-chose, mais disons que voilà, je trouve que voilà, en plus, les gens qui ont participé à ce disque, c'est des gens qui ont participé sur d'autres disques, mais là, il prend une autre dimension. Donc, cet album s'appelle Sunset Park. Alors, évidemment, ce titre peut-être vous rappelle un titre d'un roman de Paul Auster. Paul Auster est plutôt new-yorkais, donc il évoquait plutôt New York, alors que Ash Burns, lui, évoque un voyage qu'il a fait, en fait, de la Californie vers Vancouver. Mais par contre, il avait, en fait, l'audio-book du bouquin d'Auster, et donc il s'est souvenu, en fait, de cette expression, et pour lui, ça lui a rappelé ce voyage. Et donc cet album, c'est vraiment un album qui est complètement lumineux. Alors il pourrait passer pour mélancolique, parce qu'il essaye de soigner certaines blessures, mais pourtant c'est vraiment très très lumineux et c'est absolument fabuleux. D'ailleurs, dans un des titres, il chante en anglais, bien sûr, s'enfuir en pensant que le temps guérira tout. Donc voilà.
Est-ce que Ash Burns chante en anglais,
tout à fait. Alors, intéressante comme question, parce que en fait, sur cet album là, eh bien, il y a un duo avec un chanteur français qu'on adore, et que en fait, Ash Burns voulait absolument, quand tu lui as posé la question, est-ce qu'une collaboration te satisferait, eh bien, il a évidemment demandé à chanter avec Dominique A, et Dominique A, eh bien, a accepté. Finalement, il y a un duo qui est en anglais et en français, et d'ailleurs on va écouter tout de suite ce titre là, hein, puisqu'il s'appelle Dark Eyes, et vous allez voir que les deux voix se marient avec beaucoup de sensualité finalement.
Et moi qui pensais te connaître, je te vois soudain m'échapper. En un tour de main, disparaître. En un regard, te dissiper. Have you been underground, looking for the right guy, looking for the glowing light? Been on a night drive, looking for my real self, unveil the revelations. I've spent a lifetime looking for the right time. It's been the death of me. We've been like butterflies floating in a primary. We're stuck in the reverie. Veux-tu bien réapparaître, effacer l'autre qui t'a remplacé? Et moi qui pensais te connaître. Demain il fera mauvais jour. Si le jour passe par tes yeux, si ton regard est aussi lourd. Détenteur d'un si mauvais feu. I'd spend a lifetime looking for the right time. It's been the death of me. We've been like butterflies floating in our prime. We were stuck in the reverie. And I swear, it was your dark eyes that I saw. And I swear, it was your dark eyes that I saw. Et moi qui pensais te connaître, veux-tu bien réapparaître,
effacer celle qui t'a remplacé. Et moi qui pensais tout connaître, demain il fera mauvais jour. Et moi qui pensais te connaître, je te vois soudain t'échapper. Et moi qui pensais te connaître, mais ton regard est aussi sur nous. Et moi qui pensais te connaître, et le sol se met à douter. Et moi qui pensais.
Donc on vient d'écouter Dark Eyes, tiré de Sunset Park d'Ashburns, donc vous avez entendu la voix de Dominica. Et alors pour la petite histoire, cette chanson est assez étonnante, puisque vous savez qu'aujourd'hui les collaborations se font sans forcément que les gens se rencontrent, voilà. Et donc en fait, Ashburns avait dit à Dominica, la consigne ça va être, tu vas peut-être m'écrire une chanson, enfin en tout cas un texte sur quand les yeux d'une personne que tu connais par cœur changent tellement qu'on ne les reconnaît pas, ses yeux. Et donc c'était une consigne un petit peu difficile, et finalement Dominique a accepté, et finalement ils sont mariés leur voix, à la fois en français et en anglais, pour ce titre. Donc c'est vraiment un titre qui est un petit peu à part dans l'album, parce que c'est un titre qui est plutôt dans la veine du dernier disque de Dominique A, un petit peu électro, avec des sonorités
très bon disque,
voilà, très bon disque effectivement, ouais. Mais qui est un petit peu différent de ce que fait Ashburns. Ashburns aussi, il faudrait, alors évidemment là vous entendez du son, il faudrait voir la pochette de l'album, qui est absolument magnifique, qui a été réalisée, en fait
par un
artiste qui vit à Paris, qui s'appelle Gilles Ramet. C'est très 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 beau, voilà, c'est un paysage,
une sorte de coucher de soleil,
voilà, hein. Et c'est une commande en fait d'Ashburns, et ce paysage en fait s'ouvre à l'intérieur du disque sur un diptyque qui est aussi tout aussi flamboyant. Et donc il y a des concerts qui s'annoncent, notamment dans la région. On va pouvoir entendre Ashburns au Brise-Glace le 14 mai, Annecy, le 1er juin à la Belle Électrique de Grenoble, et puis à Romans-sur-Isère, dans ces contrées, à la Cordonnerie, dont on fera certainement une émission spécifique, parce que je trouve que c'est une salle qu'il faut mettre en avant dans la région. Et puis, peut-être qu'il y aura prochainement un concert à Lyon, c'est en train de se booker, comme on dit, de se faire, parce qu'en fait, Ashburns tient aussi un bar à Grenoble qui s'appelle Harvest. Alors évidemment, Harvest, c'est Neil Young. Et ce bar, c'est un bar à vin et à vin naturel. Et l'idée qui a germé dans son esprit, c'est de proposer lors des concerts, eh bien, des vins,
des dégustations.
Des dégustations, mais un vin spécifique.
Quelle bonne idée.
Lié à l'album. Et il m'a dit que la robe de l'album serait de la couleur un petit peu de la pochette du disque, et voilà, et donc l'étiquette qui sera sur la bouteille sera aussi l'étiquette de l'album Sunset Park, enfin l'étiquette, la pochette de l'album Sunset
Faire
Park.
Faire rimer vin et musique,
voilà,
ça
vin
me
et
va.
Musique, moi ça me va parfaitement, je trouve que c'est vraiment le doublon idéal, le double idéal. Donc voilà, je vous invite à vraiment écouter l'album Sunset Park d'Ashburns, parce que pour moi c'est vraiment un des grands disques de l'année, et puis il a vraiment cette qualité, je trouve que par les temps qui courent, où justement on est un petit peu dans la tension permanente, c'est un disque qui est c'est très très apaisant, c'est très très
formidable.
Agréable, et voilà, et il y a des très belles couleurs, à la fois sur la pochette et dans la musicalité de ce disque. Donc voilà, Sunset Park d'Ashburns.
Vive les créateurs, carburant pour les moteurs un peu grippés de notre société, comme je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup Guillaume. On termine cette session d'enregistrement ici à la Comédie Odéon. Il y a beaucoup de monde autour de nous, hein. Il y a vraiment aujourd'hui une grande agitation, voire même une grande convivialité, puisque les gens viennent boire un verre ici avant le spectacle. Ce que je conseille à tous, hein, d'ailleurs, hein. Venez à la Comédie Odéon, évidemment. On va terminer avec nos Gédéons. Avec quoi es-tu venu cette semaine, Gaëlle ?
Mon Gédéon de la semaine est le documentaire « Toute la beauté et le sang versé » récompensé d'un Lion d'or à la Mostra de Venise 2022. Sollicitée par la célèbre photographe Nan Golding, Laura Poitras, déjà primée de l'Oscar 2015 du meilleur documentaire pour Citizen 4 sur les révélations d'Edward Snowden, a réalisé le film. En 2017, Nan Golding se voit prescrire en vue d'une opération de l'oxycontine. Elle devient rapidement accro à cette antidouleur fabriquée par Purdue Pharma, un groupe pharmaceutique appartenant à la famille Sackler. Militante, Nan Golding fonde le collectif PAIN, douleur en anglais et acronyme traduit en français par Intervention contre l'addiction aux prescriptions maintenant. PAIN œuvre en faveur de la réduction des risques sanitaires, la prévention des overdoses et la déstigmatisation de l'usage de la drogue. Toute la beauté et le sang versé retracent le combat de Nan Golding contre les opioïdes et sa lutte contre la famille Sackler, impliquée en poussant le corps médical à surprescrire l'oxycontine, favorisant ainsi une mort par procuration et sur ordonnance. Or, cette même famille Sackler est internationalement reconnue comme mécène historique des plus grands musées du monde. Nan Golding, avec le collectif PAIN, multiplie les actions pour dénoncer cette philanthropie toxique dans le monde de l'art. En juillet 2017, une action a été réalisée au musée du Louvre, un die-in. C'est quand la foule s'allonge pour mimer la masse des victimes. Action à la suite de laquelle le Louvre a débaptisé son aile Sackler. D'autres interventions, comme au Metropolitan Museum en 2018 ou un grand lancer d'ordonnance d'oxycontine au Guggenheim en 2019, ont permis l'effacement du nom des Sackler ou motivé des refus de donation. Vous verrez toutes ces actions dans le documentaire. Les deux femmes, Laura Poitras et Nan Golding, sont des artistes engagés. Leur documentaire sonne comme un manifeste avec une triple approche autour de l'art, la vie et la lutte politique. En plus de la bataille contre les Sackler, toute la beauté et le sang versé dressent le portrait intime et artistique de Nan Golding. Le biopic montre combien le suicide à l'âge de 18 ans de Barbara, la sœur aînée de Nan Golding, a eu un impact sur la carrière photographique de l'artiste. Une œuvre vie sans filtre. Des portraits du quotidien, de la famille élargie et choisie par Nan Golding qu'elle nomme sa tribu. Soit l'underground new-yorkais des années 80, avec ses amis homosexuels et drag queens, ses compagnons de soirée, mais aussi les ravages du sida, de l'héroïne et de la cocaïne. Nan Golding immortalise tout ce que l'Amérique ne veut pas voir. Ne pas être dans le déni, ni de son histoire familiale, ni face au travers de la société, revient comme un leitmotiv. Des images du célèbre corpus photographique de l'artiste The Ballad of Sexual Dependency, long poème entre amour et mort, tendresse et maladie, comprenant près de 800 photographies, sont aussi inclus dans Toute la beauté et le sang versé. Je rappelle donc le titre du documentaire « Toute la beauté et le sang versé » de Laura Poitras, un documentaire puissant et poignant où dissidence, révolte et artivisme ne sont pas vains.
À voir au cinéma actuellement. Merci Gaëlle. Guillaume, avec quoi es-tu venu cette semaine comme petit Gédéon ?
Alors cette semaine, je ne suis pas venu avec un disque, mais avec un livre aux éditions Autrement, donc un livre qui s'intitule « Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est ?» de Gérald Bronner, qui est un sociologue, qui avait écrit un livre précédemment qui s'intitulait « La démocratie des crédules ». Donc c'est quelqu'un d'assez passionnant, il est prof à la Sorbonne, membre de l'Académie de médecine, et puis il a écrit beaucoup donc d'essais. Donc je parlais de « La démocratie des crédules », mais aussi « Apocalypse cognitive » qui m'avait bien parler, comment dire, il est assez connu et puis il est traduit dans de nombreuses langues. Donc là, son livre, Les origines, pourquoi devient-on ce que l'on est, eh bien, c'est de se poser la question de pourquoi justement on devient ce que l'on est. Donc on est issu d'une classe sociale et donc ça pose la question des transclasses qu'on a déjà évoquées, parfois un petit peu d'une manière un peu violente avec Annie Arnaud qui s'est fait quand même rentrer un petit peu dedans quand elle a dit qu'elle refusait sa classe, qu'elle reniait sa classe. En fait, je pense que les gens n'ont pas tout à fait compris ce qu'elle disait. Et donc, voilà, lui, il dit, là, c'est la quatrième de couverture, « Longtemps, je n'ai pas su de quel milieu je venais pendant ma prime enfance, même j'ai pensé que je venais d'un milieu social aisé. À un moment, j'ai compris, ma famille et moi, nous étions pauvres. » Donc voilà, il se pose la question des origines, pourquoi lui, il est devenu
universitaire.
Et je trouve que sont des questions qui sont très intéressantes, et surtout, il remonte à la mythologie, enfin, voilà, vraiment, c'est une réflexion qui est assez passionnante. et qui essaye de lutter contre, hein, dans un de ses chapitres, le risque du dolorisme, c'est-à-dire de penser que voilà, tout est écrit d'avance.
Écrit d'avance, oui.
Qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc moi, je conseille vraiment ce bouquin. Il est assez passionnant. Gérald Bronner, Les Origines.
Et accessible.
Pourquoi devient-on qui l'on est ? Oui, c'est très accessible.
C'est important de le préciser.
Ouais, complètement. C'est pas c'est un livre de spécialiste, mais qui se met vraiment à hauteur de tout le monde. Donc c'est aux éditions Autrement.
Merci beaucoup. Je vais terminer avec mon Gédéon cette semaine, bien sûr. Et pour moi, c'est une vague de froid que je vous propose. Une autre fiction dessinée et signée Jean Crémer. Petit nouveau talentueux sur la planète BD. Il est lauréat du Grand Prix Talent du Quai des Bulles de Saint-Malo. Vague de froid aux éditions Le Lombard est un road trip original qui met en scène deux frères en voyage en Norvège. Jules et son grand frère Martin sont partis en Norvège avec l'objectif de gravir le Prekestolen, cette falaise vertigineuse qui surplombe les eaux du Leisfjord. Je pense que ma prononciation du norvégien est quand même extrêmement limite. Bref, officiellement, le Benjamin veut remplir son carnet de croquis, inspiré par ces paysages à la fois hostiles et enveloppants. Mais peut-être ce périple sera-t-il également l'occasion d'enfin parler avec ce grand frère qui semble s'enfermer de plus en plus dans ses obsessions. Car pour Martin, il ne s'agit pas d'un simple voyage touristique, il espère une communion avec les dieux nordiques, attendant d'eux ainsi pour se raccrocher à la vie. J'ai adoré cette bande dessinée. Les dessins sont sublimes, les paysages norvégiens évidemment tout à fait fascinants. Vague de froid est à découvrir aux éditions Le Lombard. Allez, à la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.